Avec nous, Christophe Vieumier, historien. Bonsoir, Christophe Vieumier.
Bonsoir.
C'est la suite de notre série sur la guerre de 14-18. 1914, quand le siècle commence à...
Oui, c'est une page suisse que nous ouvrons aujourd'hui dans notre série sur la Grande Guerre. Une Suisse qui s'est révélée être un véritable nid d'espions de tous bords. Des activités allant de la transmission d'informations par des pigeons voyageurs à la mise en place de véritables dépôts d'armes. Sur la durée du conflit, on a recensé plus de 120 affaires d'espionnage dans la presse. Un bal des espions qui n'a pas manqué d'embarrasser les autorités d'un pays considéré comme neutre.
Ni d'espion, la Suisse, Christophe Vieumier, c'est juste l'expression, ça le vaut.
Ça le vaut. Entre 1914 et 1919, on recense, enfin on relève dans la presse de cette époque plus de 120 affaires d'espionnage. Et comme dans l'histoire de la criminalité, ça n'est que les affaires que l'on a, qui sont venues au jour, que les autorités ont pu voir défiler devant elles et sur lesquelles elles ont établi des jugements. Reste évidemment toutes les autres affaires qui sont demeurées secrètes et dont on ne peut que imaginer qu'elles ont été les teneurs.
La position de neutralité de la Suisse, c'est ça qui fait que, toujours peut-être aujourd'hui d'ailleurs, et dans le conflit suivant, que c'est un nid d'espions ce pays.
La neutralité, oui, mais également et surtout sa position géographique, puisque la Suisse alors est au milieu du conflit tout en étant neutre. Ses frontières bordent les champs de bataille à quelques kilomètres. Des obus d'ailleurs tombent sur le territoire helvétique. Et la Suisse est un lieu de passage aisé, facile, tant pour les Allemands que pour les Français, les Austro-Hongrois, voire les Italiens.
Christophe Vieumier, très concrètement, on est assez loin du James Bond, en tout cas dans certains cas. Il y a des affaires de pigeons voyageurs à balles, mais il y a aussi des dépôts d'armes.
Oui, alors on est très très loin de James Bond, évidemment. La plupart de ces espions sont des pauvres malheureux qu'on paye au lance-pierre pour aller obtenir une information de l'autre côté de la frontière. Et dont on se débarrasse tôt fait. Et oui, toutes les astuces sont bonnes à cette époque-là, encore sympathiques, pigeons voyageurs, toutes les astuces. Alors, il y a en effet une histoire de dépôt d'armes qui est assez importante, qui aurait pu faire peut-être basculer la guerre. On est en 1917, les Allemands veulent faire passer, par le biais d'anarchistes italiens, un certain nombre des tonnes d'armes. Il dépose ses armes par le biais de la valise diplomatique à Zurich, à la légation allemande de Zurich. Ces armes vont y rester un certain temps, et heureusement pour les Italiens, l'affaire va être mise à jour par la sûreté helvétique qui va mettre la main dessus.
À quoi ça devait leur servir, ces armes ?
L'idée était de faire exploser des tunnels, des voies ferroviaires. Il n'y avait pas que des armes, il y avait aussi des bacilles, dit la presse de cette époque-là, c'est-à-dire des armes chimiques. Hein, on se rappelle le gaz moutarde utilisé sur les champs de bataille, qui devait être disséminé notamment dans des garnisons en Italie du Nord.
Christophe Vieumier, il y a aussi eu cette affaire des colonels qui est au plus haut niveau des autorités fédérales. Là, ça devenait déjà un peu plus délicat pour le Conseil fédéral.
Aigli et von Pattenville, ils appartiennent tous les deux à l'état-major d'Ulrichville, hein, le général nommé par le Conseil fédéral à cette époque-là. Et oui, c'est l'affaire la plus connue hein, en termes d'espionnage à cette époque-là pour la Suisse. Les deux hauts officiers, en fait, revendaient des informations décryptées par les services d'enseignement suisses et les redistribuaient autant chez les Allemands que chez les Austro-Hongrois.
C'est un peu des traîtres.
Ah, totalement. on peut le considérer. Cette affaire, d'ailleurs, fait un gros bruit. La polémique à cette époque-là était énorme, puisque... Pour des cas beaucoup plus banals, d'autres se sont vus emprisonnés, condamnés à des amendes assez lourdes, alors que les deux officiers ont simplement reçu un blâme de leur officier supérieur.
On peut y voir une manifestation de tentation pro-allemande d'une partie de l'état-major suisse militaire, peut-être politique aussi à l'époque.
Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, la Suisse est partagée en deux, les pro-français, les pro-allemands. Le partage ne suit pas forcément la barrière linguistique. Hein. On trouve des tenants d'un parti ou de l'autre, des deux côtés de la frontière linguistique. Et évidemment, on pense à cette époque-là, la population, du moins romande, estime que l'armée est pro-Allemagne.
Mmh. Avec le Villet qu'on va retrouver quelques années plus tard aussi, d'ailleurs, dans l'histoire suisse du conflit suivant, d'ailleurs.
Oui, et puis Ulrich Villet, qui est d'autant plus polémique à cette époque-là, qu'il est marié à une Bismarck, une fille... du célèbre allemand.
Christophe Vieumier, si on fait le bilan de ces espions, de ce nid d'espions, qui a le plus bénéficié de la position un peu particulière de la Suisse? Quel camp?
Alors, sont opérationnels à cette époque-là les Français, les Russes, les Anglais aussi, mais avant tout les Allemands. Les Allemands établissent des petites cellules, si vous voulez, des petits réseaux à travers toute la Suisse, de Genève jusqu'à Bâle, en passant par Zurich, Neuchâtel, surtout le Tessin, et font remonter des informations jusqu'à l'Aurach, qui est le QG, si vous voulez, l'espionnage allemand dans le sud de l'Allemagne. Et c'est eux qui sont les premiers acteurs sur le terrain helvétique en termes d'espionnage.
L'Aurach dans l'Allemagne de l'époque.
Oui, c'est toujours en Allemagne.
C'est toujours en Allemagne,
ouais, c'est toujours. C'est entre 4 km de Bâle.
Ouais, ouais, tout près de l'Alsace.
Très proche.
Oui,
enfin,
tout est très proche.
Ne bougeons plus les frontières, ça va faire assez mal durant le siècle passé. Un mot, Christophe Vieumier, sur la guerre suivante, 39-45, l'affaire Rössler, l'espionnage qui venait du QG d'Hitler en Suisse, les infos données aux Russes, aux Américains, aux Anglais. Il y a des choses qui ont commencé à la guerre d'avant, qui se sont poursuivies, ou est-ce que vraiment c'était du nouveau, finalement?
Alors là, je tiens, c'était très académique. Disons que ces affaires d'espionnage pendant la Première Guerre mondiale, on les connaît à cause des dispositions pénales prises par le Conseil fédéral le 6 août 1914. C'est grâce à ces dispositions légales, si vous voulez, que toutes ces affaires d'espionnage nous sont connues. Ces dispositions se terminent en 1918 avec la fin de la guerre et toutes ces affaires d'espionnage, tout ce monde un petit peu occulte comme ça, redisparaît juste après la Première Guerre mondiale. Il y aura évidemment 2-3 cas qui sont assez célèbres, comme Ignaz Reis dans les années 30. Et ces affaires vont reprendre avec la Deuxième Guerre mondiale. Faire une filiation de la première à la deuxième, voilà, c'est un peu difficile à dire.
Merci beaucoup, Christophe Vieumier. Vous nous parliez de l'espionnage en Suisse pendant la guerre de 14-18. C'est notre série toute la semaine. Et puis, on vous signale aussi que c'est un questionnaire, la guerre de 14-18. Pour qui et pourquoi risquer sa vie aujourd'hui, en 2014? Vous pouvez remplir le questionnaire sur rts.ch. Les résultats du sondage réalisé par de nombreuses radios publiques en Europe et dans le monde sera rendu public en juin prochain. Vous souhaite une excellente soirée, Christophe Vieumier.
Merci à vous.